Bienvenue à vous à l'écoute de Fréquence Mistral, émission impromptue avec Dominique Ottavi ou Dominique Ottavi. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes dans les studios de Fréquence Mistral. Vous avez l'habitude de venir avec nous, notamment avec Christiane Belleuil dans son émission Jardin des mots. Mm-hmm. La dernière fois que vous étiez venu ici, c'était au mois d'avril, le 29 avril dernier.
Oh oui, je me souviens très bien.
Voilà. Qu'avez-vous fait depuis ?
Depuis le mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai fait depuis le mois d'avril ? Depuis le mois d'avril, eh ben, j'ai continué à tourner à droite à gauche. J'ai fait. Surtout, je suis parti en Algérie là, à l'invitation de l'Institut français d'Alger pour fêter le printemps des poètes. Ça a donné lieu à pas mal d'ateliers et surtout à trois concerts extraordinaires qui ont été bien à l'Institut français d'Alger, dans les ruines de Tipaza, à Constantine, et c'était assez extraordinaire. Et puis surtout aussi dans une galerie dont j'ai oublié le nom, une galerie de peinture à Alger. C'était très beau, la galerie était pleine de monde et on a pu à la fois chanter et dire des textes, et ça c'était très bien. Après il y a eu le retour, je suis resté 10 jours en Algérie. Et après, je suis revenu, donc c'était... voilà. Vous savez, moi, j'ai un petit peu de problème avec ma mémoire immédiate. Je ne me rappelle plus. C'est dû à mon grand âge, je pense. Donc après l'Algérie, eh ben, j'ai continué à faire des concerts à droite, à gauche. Et puis là, je rentre plus près de moi. J'étais à l'Odève pour la manifestation qui prend la suite de Voix de la Méditerranée, qui s'appelle pour l'instant Urgence Poésie. Et après, j'ai filé sur la route pour rejoindre Peille au plus tôt, où cette année, j'y suis resté 3 jours, puisque nous avons fêté le 14 juillet le centenaire de la mort de Léo Ferré, puisque c'est le festival Léo Ferré, malheureusement endeuillé par cette tragédie de Nice, ce qui fait que le deuxième jour, on a décidé, en accord avec le maire et le président de l'association, de porter le deuil, c'est-à-dire de ne pas faire de spectacle. Mais par contre, tous les spectacles prévus ont été donnés avec l'accord du maire et avec l'accord de tout le monde et des artistes le 16 juillet. Ça donnait lieu à un énorme concert avec 3 spectacles. Voilà.
Et on va commencer cette émission avec vos chants qui chantaient Léo Ferré.
Bagnard au bagne de Vauban, dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. À terre m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans pour elle je ne serai plus personne. Merde à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien. Ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant. Moi, je vois se faner la fleur de l'âge. Merde à Vauban. Ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'en viennent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Oh, que ne viennent jamais celles que j'aimais tant. Pour elles, moi, j'ai raté la belle. Merde à Vauban. Ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux jusqu'à Paris. Moi, je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour qui est la plus belle. Merde à Vauban. Bagnard, ici, le temps s'allonge dans l'île de Ré. Avec ses poules, le temps te ronge dans l'île de Ré. Oh, que ne viennent jamais celles que j'aimais tant. Pour elles, moi, j'ai raté la belle. Merde à Vauban. ira d'ici un soir et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, et je chanterai d'en dessous mes planches. Merde.
Voilà, vous étiez en Algérie donc dernièrement, mais vous en aviez parlé lors de votre dernière mission avec Christiane, me semble-t-il.
Oui, si vous le dites, c'est certain, oui. Donc j'en profite pour repréciser, mais je pense que vos auditeurs auront rectifié de même, que ce n'était pas le 14 juillet le centenaire de la mort de Ferré, mais le centenaire de sa naissance. Vous aurez tous rectifié, je pense.
Il a bien vécu, mais pas autant. Et donc, quand vous êtes allé en Algérie et quand vous allez à l'ODEV, vous concertez, vous êtes invité, comment ça se passe ?
Alors, pour l'Algérie, c'est l'éditeur de mon dernier livre. Nous en avions parlé en avril. Le livre est sorti en février ou mars, je ne sais plus, qui s'appelle L'éléphant. Donc, c'est l'éditeur Colonna Édition à San Benedetto, aux côtés d'Ajaccio. Il nous a envoyé trois auteurs de sa collection Poésie, puisque c'était le printemps des poètes. Il y avait Daniel Maouj, qui était un très bon poète. C'est une femme dont la maman est de Dzonza et le papa de Kabylie. Et donc c'était bien, elle était très heureuse de rentrer en Algérie, de revenir. Et puis Norbert Paganelli, qui est un poète corse qui est publié en langue corse uniquement. Voilà. Donc on était trois poètes envoyés là-bas, à l'Institut français, et vraiment, c'est vraiment très très agréable d'être reçu dans ces instituts français à l'étranger. Je rappelle que ces instituts français à l'étranger sont un maillage de pratiquement tous les pays de la planète, où il y a toujours un institut français. Et pour vous dire un truc, c'est que dans cet institut français, le directeur m'a expliqué qu'il y avait 3500 personnes qui viennent suivre des cours de français. C'est énorme, vraiment, c'est beaucoup. Voilà. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé en Algérie. Ça faisait 5 ans, je crois, que j'étais pas allé. Moi, j'ai une tendresse particulière pour ce pays, et notamment la Kabylie, où j'ai voyagé alors que je n'ai aucune attache pied noir ni rien. Mais j'ai voyagé beaucoup entre l'âge de 19 et 20 ans dans ces pays-là. Et j'avais été sidéré en arrivant en Kabylie, j'avais 19, 20 ans. Voir la similitude qu'il y avait de ce pays kabyle avec chez nous, la Corse, quoi. C'est pratiquement les mêmes mœurs, les mêmes villages, les mêmes paysages, et avec la religion qui changeait en fin de compte. Et donc j'ai gardé un très vif souvenir, et je suis retourné la dernière fois il y a 5 ans, quelque chose comme ça. J'étais à Asfoun, un village au bord de mer à côté de Tizi Ouzou, et c'était pour un festival international de poésie organisé là-bas. On était 7 poètes de différents pays du monde. Et c'était impressionnant parce que c'est vrai que la poésie, ici, sur le continent, en France, on commence à se décompresser un peu. Les gens commencent un peu à s'intéresser à nouveau à la poésie. Peut-être qu'il faut que la vie devienne dure pour que les gens reviennent à la poésie, je ne sais pas. Mais en tout cas, au centre Mouloud Mameri à Tizi Ouzou, la salle était pleine, quoi. Et tous les gens se battaient parce qu'on avait décidé de laisser un peu scène ouverte et pour venir dire leur poème. C'était extraordinaire. On n'a pas l'équivalent chez nous, en France.
Là, vous disiez qu'il y avait différentes nationalités, mais comment est perçue la langue quand tout le monde parle une langue différente par rapport à l'audience ?
Les 7 poètes de 7 pays différents disaient leur texte dans leur langue d'origine et les traduisaient ensuite en français. Et donc, en Kabylie, tout le monde comprend le français très bien.
Oui, c'est d'accord, mais c'était pour comprendre que ce soit en anglais, en turc, en norvégien, et c'était traduit obligatoirement après.
Oui, tout à fait. Et à Tipaza, mon dernier séjour en Algérie, quand on a joué dans les ruines de Tipaza, cher à Camus, ces ruines romaines devant la mer extraordinairement belles. Et donc on a fait aussi, parce qu'on ne peut pas faire autrement en Algérie, et c'est heureux, il y avait scène ouverte, c'est-à-dire chaque poète, des 3 poètes que nous étions, nous avons fait notre prestation, nous avons dit nos textes, moi j'ai beaucoup chanté, et puis après les gens sont tous venus dire leurs textes, ça a duré toute l'après-midi, toute la soirée, c'était extraordinaire, ouais, vraiment bien.
Et au niveau de l'échange entre vous, poètes, ça se passe comment ?
Je pense que ça existe, la fraternité des poètes de tous les pays. Je crois que ça existe vraiment. Puisque déjà, pour réagir en poète, pour écrire de la poésie, il faut avoir compris, je pense quand même, qu'on appartient tous à la même espèce, à la même nation qu'est l'espèce humaine. Je crois que c'est quelque chose comme ça, je peux le dire. Ouais.
Il n'y a qu'une race humaine.
Oui, je pense, oui.
Et donc, sur le continent, quand vous êtes revenu, vous déambulez un peu, vous étiez à l'ODEV. C'est le même type d'organisation. Là, vous reprenez un festival de poésie, ça a changé de nom ?
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un très brillant festival de poésie qui s'appelait Voix de la Méditerranée, qui, pour un tas de raisons qui ne m'appartient pas de préciser, a plongé. Ça s'est arrêté et c'est une catastrophe pour l'ODEV parce que ça marchait depuis 20 ans. Et moi, j'ai eu la chance de participer aux trois dernières éditions de Voix de la Méditerranée. La première fois en tant que poète, la deuxième fois en tant que conteur et la troisième fois en tant que poète et éditeur aussi, puisque j'édite aussi des livres, pas forcément les miens. Et donc c'était un peu une catastrophe parce que j'ai beaucoup aimé ce qui s'est passé à l'ODEF ces trois années-là. Et donc l'année dernière, on m'a demandé, il s'est monté un collectif qui s'est appelé Urgence Poésie Sauvons les Voix, qui ont proposé à tous ceux qui avaient participé de près ou de loin aux éditions de Voix de la Méditerranée de venir les soutenir parce que les Voix de la Méditerranée se sont arrêtées parce que les subventions ont été coupées d'une manière drastique. Et donc moi j'aurais dit oui, bien sûr, évidemment. Et puis l'année dernière, il se trouve que ça se chevauchait avec des contrats que j'avais déjà pris ailleurs, donc j'ai pas pu y aller. Donc je leur avais dit surtout me prévenez au moins bien à l'avance l'année prochaine. Et donc ils m'ont prévenu longtemps à l'avance et je suis resté 5 jours là-bas. Donc avec j'ai beaucoup dit de ma poésie. Et j'ai beaucoup chanté aussi. Et j'ai chanté là-bas aussi Ferré, bien sûr, pour les 100 ans, pas de la mort, mais de la naissance de Ferré. Et puis un accueil formidable. C'est un festival maintenant qui essaye de sauver ce qui était les Voix de la Méditerranée, mais qui font ça sans subvention, beaucoup de bénévoles, avec beaucoup d'enthousiasme. Donc je pense que c'est une entreprise qui mérite d'être approuvée, encouragée, dans tous les sens du terme. Voilà.
Vous chantez, vous parlez en langue corse, même quand vous êtes sur le continent ?
Oui, oui, tout à fait. En traduisant en français, toujours. C'est la moindre des politesses, oui. Tout à fait.
Et l'écho que vous avez, que l'audience a, quand vous chantez en Corse, il y a des sonorités. Le bassin méditerranéen est très, très grand. Quand vous allez dans le sud de la France, il y a des sonorités qui sont semblables, même si ce ne sont pas les mêmes mots ni la même grammaire. Les gens vous comprennent quand vous allez en pays doc, comme ça ?
Je n'ai pas l'impression, non. Ils comprennent vaguement le. Oui, mais c'est quand même. Surtout ce qui change dans nos accents respectifs entre le provençal et le corse, c'est qu'on n'a pas du tout le même accent. Même si les mots sont proches, si on les écrit, ils sont proches. On sort tous du latin, hein. Faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est notre tonique. Par exemple, excusez-moi de me citer, mais ici en Provence, on appelle Doumé. En Corse, c'est Doumé. Et ces accents, ça perturbe la compréhension immédiate, je pense, quoi.
Et les syllabes changent quand on...
Aussi, bien sûr.
Mais en Corse, déjà, entre vallées, quelquefois, les mots changent, alors.
Imagine. Entre villages, plutôt.
Entre villages aussi.
D'un village à l'autre, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Donc, vous écrivez aussi, vous composez de la musique, vous écrivez, vous avez fait des livres, vous en avez mené quelques-uns aujourd'hui dans notre studio de Fréquence Mistral.
Oui, je vous ai amené les dernières parutions, en fait. On ne parlera pas d'éléphant, on en a parlé la dernière fois. Donc ça, c'est le dernier. C'est pas le dernier sorti. Le dernier sorti, c'est un ouvrage collectif qui a été initié aux éditions Afiordicarta, par Jean-Pierre Santini, qui, je le souligne au passage, était un des créateurs historiques du FLNC, quand même, qui a voulu faire un recueil global avec 35 auteurs, dont moi, insulaires, contre le racisme et la xénophobie, puisqu'on a tellement dit de choses sur le FLNC à ses origines que, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, il a dit « ça suffit maintenant, on va dire qui on est vraiment ». Donc ça s'appelle « Tara da Colta », vous savez très bien ce que ça veut dire « Tara da Colta », oui, ça veut dire « terre d'accueil hein. ». Et voilà, j'étais très heureux de participer à ça, donc on a fait beaucoup de signatures à droite à gauche dans l'île, Pour préciser, parce qu'après tout ce qui s'est passé, on ne peut pas cacher qu'il y a eu des actes racistes en Corse. Donc on a voulu s'élever contre ça en disant que notre tradition en Corse, c'est justement le contraire du racisme, c'est au contraire l'accueil de l'autre, de l'étranger. Et ma Minane, ma grand-mère, qui m'a élevé en partie, me disait l'étranger, c'est Dieu qui te l'envoie pour t'apprendre ce que tu ne sais pas encore. Donc notre culture de base, c'est pas propre à la Corse, c'est propre à toute la Méditerranée. Il faut penser vraiment que nos sociétés sont malades pour que, aussi en Méditerranée, le racisme commence à s'étaler comme ça, quoi. Donc ça a été une réaction de colère qu'on doit à Jean-Pierre Santini. Et donc j'ai participé à ce collectif avec beaucoup de... Pas de plaisir, mais oui, de plaisir, de joie, oui, forcément. Au moins, on annonce la couleur, voilà.
Qu'y a-t-il de beau comme texte dans ce joli, joli ouvrage ?
Alors, il y a des textes, je voulais que je vous cite les auteurs.
Non, mais juste au moins quelques lignes.
Au
hasard.
Que j'ai écrit ou d'autres
au
personnes ?
Au hasard.
Il y a deux siècles, Pasquale Paoli démontrait déjà, avec toute la grandeur d'âme qui le caractérisait, que l'héritage chrétien de la Corse trouvait son sens dans l'application des préceptes moraux qui le constituent et qui commandent à chacun d'aider les misérables victimes des turpitudes du monde. Le Samaritain sur la route de Jéricho n'en a pas fait moins. Pasquale Paoli combattait les préjugés de son temps et ainsi fit de la Corse une lumière qui éclaira toute l'Europe. C'est avec cet exemple ancré au plus profond d'eux-mêmes que les nationalistes corses doivent se présenter devant leur peuple. Nous ne saurions lutter pour l'émancipation de la nation corse sans nous rappeler ce qu'elle a représenté tout au long de son histoire. L'île des Justes, notre île, celle de la République paolienne, qui se dressa contre les terribles armées françaises et génoises, tout en offrant aux persécutés un havre de paix et de tolérance. Celle de la résistance contre le fascisme, qui s'opposa aux armées italiennes et à la collaboration nazie, faisant de la Corse une terre épargnée par les déportations. Celle des combattants du FLNC qui prirent les armes contre le colonialisme français durant 4 décennies pour les droits historiques d'un peuple sans jamais se tromper d'ennemi. Ça, c'est de Nicolao Battini.
Il faut s'y resituer que Pasquale Paoli était du temps de Napoléon Bonaparte. C'était pas du tout sur le même terrain d'entente qu'il jouait. J'étais un petit peu plus vieux. Et il y a eu la Première République avec cet homme à Corté.
Oui, c'est-à-dire la Corse a été indépendante sous le commandement de Pasquale Paoli à partir de 1755. Et cette république est la première république du monde moderne, quand même, la première fois que ça existait, donc a fait écho largement auprès de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, des insurgents américains qui partaient au combat contre les troupes anglaises aux États-Unis, qui ne s'appelaient pas encore les États-Unis, au cri de « Viva Paoli ». Il y a encore beaucoup de villes aux États-Unis qui s'appellent Paoli. Corsicane aussi, tout ça c'était en hommage. On se rend pas compte aujourd'hui, parce que la France a fait ce qu'il fallait pour qu'on le sache pas trop quand même, il faut le dire, suite à la conquête française, qui a été une conquête extrêmement violente, extrêmement réprimant tout d'une manière très 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 sauvage. On parle de Oradour-sur-Glane pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on enfermait un village entier dans une église avant d'y mettre le feu. Ça c'était dû aux nazis. Mais les Français n'ont pas fait mieux en Corse au XVIIIe siècle. Faut le savoir quand même, ça, c'est de l'histoire. Voilà, donc j'en étais où ? Je sais plus.
Sur Pasquale Paoli.
Oui, Pasquale Paoli. Donc sa république s'est effondrée en 1769 sous les coups de butoir de l'armée royale française. C'était le roi de France, Louis XV. Hein, voilà.
Année de naissance de Napoléon.
Donc,
il faut savoir aussi pour nos auditeurs Fréquence Mistral que l'emblème pour beaucoup de la Corse est Napoléon, mais en Corse, c'est pas forcément toujours le cas.
Non, et bien sûr, dans chaque café de village, dans chaque restaurant, beaucoup de foyers, il y a le portrait de Pasquale Paoli, qui s'appelle Ouabou, dit à patrie, le père de la patrie.
Et dans cet ouvrage, donc là, vous parliez de personnes qui ont fondé le FLNC, quand le FLNC était, faire attention aux mots, mais dans le plus noble de la revendication, quand ils combattaient le Poniatowski, déjà, qui était à l'époque le ministre de l'Intérieur, et surtout quand il y a eu des terres qui avaient été données de Corse, ou des vignobles qui avaient été donnés, et que les Corses sont un peu rebellés contre ça, pour Allaire, et en 75.
Oui, ça a déclenché tout le mouvement. Mais le mouvement existait déjà, qui était au départ l'UPC, l'Union du Peuple Corse, qui n'était pas du tout pour l'indépendance, mais pour l'autonomie. Moi, je voudrais faire un point précis d'histoire, c'est-à-dire que à partir de 1960, l'ONU, la grande ONU, l'Organisation des Nations Unies, a voulu initier l'autodétermination des peuples. Donc ils ont demandé à chaque pays de prouver en quoi tel pays appartenait à ces pays-là. Donc un tas de documents ont été sortis. Donc ça a initié, parce qu'on croit toujours que c'est De Gaulle ou je ne sais pas qui a initié la décolonisation en Afrique et ailleurs. En fait, ce n'est pas ça, c'est l'ONU qui avait initié ça, qui avait demandé à chaque pays de fournir les preuves comme quoi ces pays n'avaient pas le droit à une autodétermination. Et donc, j'ai trouvé les documents, on peut les trouver assez facilement, pour la Bretagne et pour la Corse. Et la Corse, c'est l'achat par le roi de France en 1767, je crois, et la date exacte, je ne sais plus, à la République de Gênes, contre une somme d'argent, acheter la Corse avec ses habitants. C'est-à-dire, on achetait des gens. C'est quand même incroyable. Et donc, il y avait la Bretagne, puisque c'était la dédition de Anne de Bretagne quand elle s'est mariée avec Louis XI. Bref, je ne vais pas m'inciter là-dessus. Et le Pays basque. Et il se trouve quand même que la France était un des quatre pays qui a le droit de veto à l'ONU. Donc a refusé de considérer ces documents-là, qu'on connaît, qui sont de l'histoire, on a les documents, comme étant authentiques. Ce qui fait que les premiers mouvements ont commencé comme ça. Donc on a la preuve, par cet acte de vente de la République de Gênes au roi de France, qui a considéré le temps de sa royauté, juste avant la Révolution française, la Corse comme une nation. Puisque sous la royauté, la Corse était rattachée directement à la couronne royale, au roi de France, qui la considérait comme une nation à part entière, même s'il l'avait envahie. Mais c'était une nation, il considérait la langue, il considérait le peuple comme n'étant pas, entre guillemets, français. Voilà, donc ça c'est vraiment très important de le savoir, mais la France a usé de son droit de veto pour empêcher qu'on arrive à une autodétermination. Et ça a travaillé les consciences depuis longtemps, parce que on peut se rappeler quand même que la conquête a été extrêmement cruelle et terrible en 1769. Eh bien, dans le Fiumorbe, la plaine orientale, les gens ont résisté jusqu'en 1830. Si vous comptez 1769-1830, ça en fait du monde, hein. Ça en fait des gens. Ça en fait des gens déportés au bagne de Toulon, et ceux qui s'enfuyaient dans la Galourde, sur la côte nord de la Sardaigne, pour trouver refuge. Voilà.
On écoute un petit peu de musique avant de poursuivre.
Allez.
Alors vous avez mené quelques disques, notamment celui-ci qui regroupe, c'est un double, il y a 83 et 2007. On entame avec un morceau du 83.
Oui, alors il faut parler de Miggy Raffaelli, c'est-à-dire quand on a réinventé à Cetera notre instrument, le sistre traditionnel corse, la reconquête de cet instrument a eu lieu entre 75 et 80. Et puis on ne savait pas trop comment jouer, etc. Donc Miggy Raffaelli, qui était un grand peintre, un grand scénographe et un grand musicien, était un grand guitariste aussi, qui a passé beaucoup de temps à Marseille dans sa jeunesse. Et on lui a remis cet instrument entre les mains et il a enregistré le premier disque de Cetera en 1983. C'était un long jeu, comme disent les Québécois, c'est-à-dire un 33 tours. Donc j'ai demandé à Miggy de pouvoir rééditer en CD ce 33 tours. Et puis il m'a dit, oui, d'accord, mais nous, on va en faire un nouveau de cette année-là. Donc ce nouveau, c'est 2007. Là, on va écouter un morceau de 1983. Thank you. Ce que tu gardes, tu le perds, ce que tu donnes, tu le gagnes. Ils ont dit que nous n'étions pas fiables, juste, vaguement, tolérables. Ils ont affûté leurs faux, leurs mots, leurs armes, réglé leurs comptes à quelques moines, allumé les feux grégeois et les lanternes magiques pour mieux nous désigner à la populaire vindicte, caressé la haine dans le sens du poil, ce poil que, paraît-il, nous avons dans la main depuis les temps immémoriaux. Et ce poil, disent-ils, ne nous empêche nullement de nager vers leur terre pour y voler, piller, tuer, même égorger. Ils ont dit que nous étions donc redoutables, quoique méprisables. Je ne suis ni plus ni moins que toi, mon frère, ni meilleur ni pire que toi, mon frère. J'ai un cœur, des bras, un cerveau. Tu as voulu me civiliser, comme tu dis, tu as oublié. J'avais été ton premier civilisateur, moi, l'aigle de la malfaçon, l'aigle du qu'en diront-ils, nous sommes sombrants, et la lune tourne sa face vers moi, je ne suis pas son frère, pas sa mère, mais elle compte pour moi, je m'enfonce dans la nuit noire, m'y assombris encore, le désespoir n'est pas une excuse, le désespoir est une injure, je suis ce train sempiternellement débraillé, déraillé par des rebelles autorisés, endimanchés, décorés, patentés, qui ont pignon sur rue, et le pouvoir à pleine main. Je n'ai pas le droit de suivre mon chemin, ma trace, pas le droit de vivre, juste celui de sombrer. Et quand tu sombres, que te reste-t-il de mieux que l'ombre ?
Et oui, il faut savoir que le Corse est quand même de temps en temps dénigré, pour X raisons, et que vous parliez du poil dans la main, mais dans les pays méditerranéens, en Espagne, l'après-midi, ils font rien, ils dorment, il fait trop chaud. Parce que nous, en Provence, on connaît la chaleur, mais dans le sud de la Corse, il fait encore beaucoup, beaucoup plus chaud que ça. C'est très aride du côté de Sartène, vous descendez vers Piano Toli et compagnie. Enfin, je parle un peu en connaissance de cause. Et beaucoup de gens disent, oui, ils font rien, ils sont là, ils font rien, mais ils travaillent à la fraîche. Comme pour les jardins, on fait le matin ou on fait le soir. En journée, il n'y a pas grand monde sous le soleil, quoi.
Oui, et en Espagne, puisque vous parlez d'Espagne... L'Espagne, les gens vont manger très tard le soir parce qu'ils ont travaillé en fin d'après-midi. Mais ils se lèvent très tôt le matin, ils travaillent toute la matinée aussi. Alors la vision, c'est que les heures où, dans les pays, disons, tempérés, on travaille le plus, c'est-à-dire de 2h à 5h de l'après-midi, ben non, on n'y est pas, hein. Non, on n'y est pas, pas du tout.
Non, c'est comme de manger au soleil, on n'y est pas.
Non plus. Et se mettre tout nu sur les plages non plus.
Non plus. Entre autres. Et de ce recueil que vous avez de terre d'accueil, là, vous... Vous vous êtes réunis ou c'est d'un même élan que vous avez décidé de sortir ce livre ?
C'est-à-dire chacun d'entre nous des 35 a répondu à la sollicitation de Jean-Pierre Santigne, qui a fait le recueil. Mais après, il nous a demandé d'être là partout pour défendre ce recueil. Mais c'est pas pour vendre des livres, c'est pour témoigner qu'on est déjà 35 personnes qui, nous sommes des écrivains qui disons non, non au racisme et non à la xénophobie. Et ça a donné des réunions très intéressantes un peu partout en Corse.
C'est comme un manifeste.
Voilà, c'est exactement ça. C'est un manifeste.
Et des quatre coins de la Corse, puisque la Corse et le langage corse changent de village en vallée, vous avez pu, pareil, parler et écrire en Corse pour que les autres se comprennent, parce que les mots changent également.
Oui, non, mais bon, c'est la vieille histoire de la langue corse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de variantes, surtout entre la Haute-Corse et la Corse du Sud. Mais profondément, il faut considérer que c'est une seule langue avec toutes ses variantes, mais qu'on se comprend tous quand même, quoi. On se comprend tous, mais c'est comme l'occitan. L'occitan s'inventait jusqu'à Poitiers, quand même, et jusqu'à Cuneo en Italie, et tout ça. Mais entre le Nissarthe, qui est un occitan, et le langage de Limoges, il y a des grosses, grosses variantes. Mais pourtant, tout le monde, globalement, arrive à se comprendre, en fait.
Même entre Nice et Toulouse, hein.
Pareil, pareil. Et même entre Nice et Aix-en-Provence. Parce que le Provençal de Mistral, c'est pas le Nissarthe, hein. C'est pas du tout, c'est pas ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on sort tous du latin. Et quand on comprend vraiment ça, ça va, on arrive à se comprendre. Et c'est pour ça, là je n'avais pas pensé à parler de ça, vous ne me l'avez pas proposé non plus, mais cette réforme de l'enseignement, histoire d'arriver à supprimer le latin et le grec, c'est pour moi une aberration.
On supprime les racines.
Puisqu'en fait, c'est ce qu'on prêche en Corse, c'est que les enfants apprennent le corse, parce que quand on sait parler corse, eh bien on est à l'aise en Espagne, on est à l'aise en Italie, on est à l'aise en Roumanie, on est à l'aise dans le monde entier. C'est ça qu'ils comprennent. Mais les petits, quand on est complètement déculturé, qu'on ne sait plus parler que le français, ben là, on est drôlement démunis à l'étranger, dans les pays latins et ailleurs.
Et pour revenir aux langues, au latin, au grec, toutes les racines qui sont dans notre langage, hormis le franc, proprement dit, hein, je parle, toutes ces racines ont un sens. On enlève ça, les mots ne veulent plus rien dire. Après, ce sont des prononciations, des accents. Mais si les accents, ça ne fait pas « et », ça ne fait pas « est ». Et ainsi de suite, quoi. Les Y, ils sont bien là, ils sont mis là pour de bonnes raisons, et ainsi de suite. C'est vrai que de supprimer tout ça, enfin, c'est bien, j'en parle, j'ai aucun pouvoir décisionnaire, mais c'est vrai que c'est dommage de tirer un trait sur, c'est du passé, tirer un trait sur ce passé-là, alors que le passé, ça mène l'avenir, quoi. Hein.
Oui, et puis ce passé, il est très présent, puisque je parlais avec un linguiste il y a quelques années, qui m'a dit, tu sais, il faut pas se tromper, le français, c'est 98% de latin. Il y a quelques mots francs, peut-être, mais 98%. Donc, comment vont faire les enfants qui n'auront aucun rudiment de latin? Ils pourront pas comprendre leur langue, et la langue va partir comme ça. Et moi, je suis pas du tout un réactionnaire de la langue, c'est pas du tout ça, allons-y. Mais si on comprend pas comment ont été fabriqués les mots, on comprend pas leur sens non plus. On ne peut pas comprendre quel est le sens véritable, puisque sans l'étymologie, on est perdu, vraiment, vraiment. Moi, je tiens quand même à préciser, c'est que j'écris quelques-unes de mes chansons en langue corse, mais la littérature que j'écris, c'est toujours en français. Je tiens à le préciser parce que c'est très important, parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'en fait, je suis un vieux monsieur depuis longtemps, et en fait, j'ai fait mes humanités, j'ai commencé à écrire en français, et pour moi, ma langue littéraire, c'est le français, même si le corse, je trouve une langue magnifique, et pour la chanter, c'est fantastique, le corse, et je chante complètement différemment en langue corse qu'en français, c'est pas du tout pareil, parce que la voix se pose différemment, c'est une question d'accent aussi, et tout ça. Mais au niveau écriture littéraire, j'écris toujours en français.
Et puis il y a des syllabes en langue corse qui ne sont pas traduisibles.
Aussi, hein. aussi.
Donc avec Miguel Rafal et donc Michel Rafal, vous avez fait un second disque en 2007.
Oui, donc on est convenu comme ça. Alors moi je lui avais dit, écoute, ça serait bien qu'on fasse une nouvelle création, puisque maintenant entre 1983 et 2007, il s'est passé du temps. Et donc, pour montrer un peu les deux facettes, comment a évolué ton jeu sur l'instrument, etc., etc. Et puis, il m'a dit, bon, d'accord, donc, comme j'ai fait la production de cet album, pour Amapola Productions, On s'est retrouvé au studio un matin. Il avait amené un instrument dans sa main. Il avait la cetera et puis il avait un instrument que je connaissais de vue, qui s'appelle le tampura, qui est un instrument dont on se sert en musique des Indes pour faire. C'est un peu comme un synthétiseur qui crée des nappes de son. C'est un instrument qu'on joue pratiquement pas de la main gauche. On joue que des sons de la main droite. Puis il me met dans les mains, il me dit « Vas-y, tu joues et je joue sur toi ». Je dis « Mais attends, Miguel, j'ai jamais joué de ça ». Il me dit « Vas-y, c'est bon ». Et donc on a fait comme ça, on a improvisé comme on fait pour les disques de jazz. Et ben, je lui ai proposé un tas de séquences rythmiques différentes. Je n'étais pas à l'aise au début, puis j'ai pris vite confiance. Et puis ça a donné ce disque-là que, pour ma part, je trouve, je l'aime ce disque. J'aime beaucoup ses interventions à Miguel, vraiment comment il joue. C'est lui qui joue l'instrument soliste.
Il y a un morceau en particulier que vous voulez écouter ?
Non, au hasard. Thank you.
à l'heure, vous parliez de la Corse et de l'occupation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas actuellement, à l'heure actuelle, que la Corse a été occupée pendant la Deuxième Guerre mondiale, que la Corse a été libérée et que c'est le premier département qui a été libéré en septembre 43, suite à la chute de Mussolini, et qu'il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord, notamment des Marocains, qui sont venus, qui ont laissé leur peau, qui n'ont pas forcément été reconnus, mais qui ont été reconnus sur le tard.
Ben oui, ils sont passés par le col de Téguim. Il y a une stèle, vous le rappeliez tout à l'heure. Il y a eu un apport de... On dit que la Corse est libérée par elle-même. C'est juste et c'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a eu les Marocains, justement, qui ont débarqué et puis qui sont battus comme des lions. Et il y avait le commando de choc aussi. Le commando de choc qui avait été, c'était des Français et qui étaient formés exprès pour débarquer. Il s'appelait le commandant Michelin, le chef de ce commando de choc. Ils ont été débarqués par le sous-marin Casabianca qui a fait plusieurs missions en déposant des vivres et des armes, notamment à la plage d'Aron, à côté de Cargès, de Piane, quoi, exactement. Et donc ces gens-là ont apporté. Mais ce n'est pas mésestimer le courage incroyable des Corses qui a été salué par le général de Gaulle à l'époque. Moi, j'aime bien ce type qui est une figure de la résistance corse, parce qu'ils sont battus comme des fous dans la résistance, hein, chez nous, en Corse.
En Alta Rocca.
Oui, en Alta Rocca. Il y avait ce personnage incroyable, Uribeddu, c'était Dominique Louquine, donc de l'Alta Rocca aussi, qui, au moment où la division Das Reich est remontée de la Sardaigne, est remontée vers le nord par la plaine orientale, il était là, lui, avec une mitraillette dans chaque main, il tirait dessus, carrément, quoi. Ils l'ont pas eu, hein, ils l'ont pas eu du tout. C'est-à-dire, il y avait cette rage déjà, ils avaient souffert beaucoup par les Italiens, et puis il y avait ce vieil antagonisme avec les Italiens, mais avec les chemises noires, avec les fascistes italiens. Parce que les Corses, on pourra dire ce qu'on voudra, mis à part quelques exceptions, il n'y a pas de mentalité fasciste en Corse. Au contraire, c'est toujours... faut pas qu'il y en ait un qui aille plus haut que l'autre. Il faut qu'on soit tous au même niveau. Autrement, ça va pas. Donc, il y a toute cette culture qui est complètement imperméable à tout ce qui est fascisme ou nazisme. C'est pas possible, quoi. Donc, ils se sont battus tout de suite dans les maquis. Ils ont payé le tribut. Fred Scamarone, ils l'ont torturé dans la citadelle d'Ajaccio. C'était un préfet de la République, quand même, quoi, qui faisait la liaison avec l'Angleterre, avec la résistance, hein, vraiment. C'était l'équivalent de Jean Moulin pour la Corse, en fait. Ils l'ont piqué, les Italiens, ils l'ont torturé, ils l'ont donné aux Allemands. Après, bon, il y a aussi cet exemple de... J'ai un chant sur un disque à moi, là, qui s'appelle le Testament d'Adouman, hein, où je parle de Charles Bonafede. Et Charles Bonafede, qui était de Petré de Béquija, et qui lui a été piqué, il était résistant, il a été piqué dans les maquis par les Italiens, qui l'ont donné aux Allemands, aux nazis. Il a été déporté à l'île d'Elbe et après déporté en Allemagne. Il s'est enfui du camp de déportation, par ses propres moyens. Et là, c'était septembre 43, il pouvait rentrer en Corse et puis être tranquille. Il s'est engagé dans les armées du maréchal Tito pour poursuivre jusqu'au bout la peste brune, jusqu'en Yougoslavie, où il est mort, où il a été tué. Il est enterré toujours là-bas. Charles Bonafede. Ça, ce sont des exemples, mais on peut les multiplier par 10, 20, 30, 100. Voilà. Il y a eu cet esprit de résistance, je crois que c'est l'esprit corse fondamental. Il y en a aussi beaucoup sur le continent, il y en a beaucoup dans d'autres pays, hein. Faut pas exagérer non plus, mais profondément, c'est ce courage, ce jusqu'au boutisme, moi, qui me touche beaucoup.
Et c'est toujours ancré dans le cœur des Corses. Et la Corse également, après on va arrêter de parler un petit peu d'histoire, pendant la première guerre 14-18, elle a également donné un lourd tribut. Il y a des monuments aux morts qui sont noircis de noms de personnes qui sont allées au champ d'honneur, au champ d'horreur, comme disait Jacques Brel. Et c'est pareil, c'est pas forcément reconnu sur le continent.
Non, puis les historiens sont pas d'accord, parce que on dit qu'il y a entre 15 000 et 30 000 morts. À l'époque, la Corse faisait, je crois que c'était 160 000 habitants. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais c'est dans ces eaux-là. Imaginez la saignée que c'était. Et donc, moi, mon grand-père a été tué au moment de la bataille de Vassincourt, à côté de Bar-le-Duc. Et j'ai fait le voyage quand j'avais 40 ans. J'ai voulu voir ce qu'il avait, où ça s'était passé. Et en fait, il a été tué sur le coup et mis dans une fosse commune, tout à fait simplement. Et on me disait, donc, en parlant, en étudiant l'histoire, que les ressortissants continentaux de l'armée, une fois passés 55 ans, partaient pas au front. Et ceux qui avaient plus de 3 enfants ne partaient pas au front non plus, quoi. Mais nous, les Corses, passés 55 ans, avec 5, 6, 7 enfants, on y allait. Voilà. Ce qui fait que ça expliquait après la déshérence totale de l'île, puisqu'il n'y avait plus de bras pour la travailler. Et c'est là qu'on peut noter le courage insigne des femmes corses qui ont pris le relais derrière avec ce qu'elles pouvaient faire. Mais mon grand-père, il a été tué. Il a été jeté dans une fosse commune où il était avec des Niçois et des tirailleurs sénégalais. Parce que là, quand on va dans ce champ de bataille, là, de Vassincourt, on voit des noms, on voit des croix. Ce sont des noms italiens, enfin, ou des noms provençaux ou de Nice. Et on voit des croissants, et ce sont tous les colonisés qui allaient se faire tuer en première ligne. Et on voit pas grand chose. Il n'y a pas de grand nom de Paris, hein. Pas beaucoup, quoi. Et lui, il était mis dans une fosse commune où il y avait 8 personnes. Et puis voilà. Donc après, je savais pas où il était. Donc j'ai fait l'enquête au ministère des anciens combattants. Il tombait des nues, quoi, parce que c'était longtemps après, quand même. Et on m'a répondu, et c'est quand même cette injustice qui dure si longtemps. On m'a répondu, vous savez, si la famille n'a pas réclamé le corps, il est à Douaumont. Je dis, comment? Il crevait de faim dans l'île. Ça a été gratuit pour aller se faire tuer. On l'a trimballé, on l'a transporté, on lui a donné un fusil. Mais quand il était mort, il fallait que ce soit la famille qui paye le retour. Voilà, je ne dirais pas plus. Ouais.
On va se quitter, Dominique.
Oh, ben dommage, ça va vite alors.
Ça va vite, ben, quand vous voulez, l'antenne, que ce soit avec ma collègue Odile ou avec moi-même, avec plaisir. On se quitte sur un dernier morceau. Il n'y a pas que des bateaux.
Allez, avec plaisir. Et puis la prochaine fois, je prendrai Mache et Terra avec moi.
À bientôt.
À bientôt. Merci, Jean-Marc.
Y a pas que des bateaux dans la marine, y a pas que des marins sur l'Atlantique, pas que des voiles perdues vers l'Atlantide, et ça l'étonne toujours. Loïc, 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 Loïc. Y'a pas que des sirènes entre les vagues, y'a pas que des esclaves à fond de cale, y'a pas que Moby Dick là-bas au large, y'a pas que des bordels à Amsterdam. Y'a aussi la vie, la vie, la vie. Y'a pas que des villes au fond de la mer, y'a pas que des lumières au fond du verre, y'a pas que des steamers en cale sèche, y'a pas que des Nemo, le ventre à l'air, à l'air. Y'a pas que des baleines dans le ressac, y'a pas que des rivages devant les traves, y'a pas que de l'agneau dans le hamac, et pas que des photos jaunies au fond du sac. Y'a aussi la vie. Y'a pas que des légendes en armorique,
pas que des contrebandes entre les îles, y a pas que l'Irlande au cœur d'Andy, et pas que la Corse dans mon exil. 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 Y a pas du soleil anti-irénienne, pas qu'Arthur Rimbaud sur sa civière, y'a pas que des pirates chez les métèques, et pas que des galères turques devant Marseille. Y'a aussi la vie, la vie, la vie. Y'a pas que des bateaux dans la marine, y'a pas que des marins sur l'Atlantique, pas que des voiles perdues vers l'Atlantide, et ça, ça l'étonne toujours. Loïc, Loïc, Loïc.